Bonjour, ou bonsoir, et bienvenue pour ce sixième épisode de Podculte. Vous êtes toujours nombreux à nous écouter, et nous en sommes ravis. Bon, nous avons mis un peu de temps à faire venir ce sixième épisode, mais il est là, et nous allons essayer de faire en sorte qu'il soit parfait. Ou pas. Surprise. Donc, aujourd'hui, nous allons parler d'un grand sujet, un sujet qui va englober, entre guillemets, la partie sujet et la partie débat, qui est le RP dans le PvE et son impact sur l'évolution des structures, sur leur orientation, sur leurs objectifs ou tout simplement sur la vie de tous les jours dans le jeu. Parce que sachant que des lieux ont changé, des factions ont changé, etc. Ensuite, nous aurons bien sûr la rubrique du Père Varka qui parlera d'un petit point d'histoire ou d'une créature du jeu et de notre monde qui est World of Warcraft. Nous avons également la rubrique Trucs et Astuces de Kalyan. Nous aurons une petite présentation du concile avec ses objectifs, sa composition et même qu'est-ce que c'est. Nous aurons la présentation d'un projet par Jack, le GM des Brumes, et également, tant qu'à y être, un petit rappel de qu'est-ce qu'est cette guilde. Nous ferons également un petit point d'histoire sur les derniers événements et rumeurs de notre bon culte. Bien, donc ce soir, avec nous, nous avons donc, bien sûr, comme je l'ai cité, Jack, GM des Brumes. Donc, bonjour Jack.
Salut, salut.
Nous avons également, eh bien, nos chroniqueurs, Kalyan, en premier.
Bonjour. Bonjour.
Kalyan. Nous avons Varka, également.
Salut.
Nous avons, comme toujours, et nous avons eu beaucoup de réactions lors de son dernier débat, nous avons le GM des Salut Belloré, Siana.
Hello tout le monde.
Nous avons également un mercenaire itinérant, Lodge.
Salut.
Et nous avons bien sûr la Magneto Girl qui est en Magneto. Ah, et bien sûr, votre animateur préféré, moi-même. Donc, après cette courte présentation, nous allons passer au sujet de fond et au débat, le RP dans le PvE. Déjà, une définition simple, PvE. Pour tout le monde, ça semble évident, mais certains auront peut-être du mal avec ces trois petites lettres, PvE, Player versus Environment. Donc en clair, le joueur contre le jeu. Tout simplement. On me posait une question, c'est est-ce qu'on peut allier PvE et RP? Nous avons déjà eu un sujet sur le PvP et le RP, mais donc le PvE, c'est quel impact peut-il vraiment avoir sur notre RP?
Moi je dirais déjà que ça impacte au niveau des quêtes, parce que les quêtes qu'on fait dans le jeu, ça peut inspirer le personnage au niveau du caractère. Par exemple, la quête de départ des DK. C'est une histoire possible pour un des cas donné. Et donc on peut déjà s'inspirer de ça et partir sur une base, donc PvE, au niveau des quêtes, pour forger un personnage.
Il s'avère que là-dessus, on avait eu déjà évoqué un peu la question, un côté piège toujours, dont je veux qu'on fasse toujours très attention, c'est les quêtes. Ça donne une identité, mais il faut savoir s'en détacher parce que sinon on a tous passé par un certain nombre d'éléments communs. Par exemple, les chevaliers de la mort, sont-ils tous libérés de l'affreux joug du roi Lich, ou y a-t-il peut-être de la place pour des renégats là-dedans? Voilà, donc là je pense qu'il faut reprendre la trame et l'adapter en fonction de ce qu'on veut créer. Il faut faire très attention pour pouvoir se détacher suffisamment et créer un personnage original mais qui respecte un petit peu l'environnement du jeu.
Oui, c'est-à-dire que l'histoire du jeu permet de trouver une trame, de trouver une idée qu'il faut après développer et adapter, de manière à ne pas être un simple PNJ en fait. Le risque du PvE, c'est que par exemple, des dizaines de joueurs auront tué le roi Lich, auront tué Ragnaros, ils l'auront tué peut-être des centaines de fois. Certains ne vont pas prendre ça en compte, et d'autres... Oui, le fait qu'il ait réussi à le tuer. Donc, dans quelle mesure doit-on prendre ces donnes, ces objectifs PVE atteints en compte dans le RP. Quelle est la limite acceptable là-dedans ?
Bien, pour moi, je trouve que du moment que on dit que ce n'est pas seulement la personne seule qui a tué le boss, par exemple Ragnaros, mais tout un groupe. Comme ça, ça permet à n'importe qui de dire qu'il a participé à cette bataille, qui est plus ou moins épique.
Ça met fin à un aspect qu'on retrouve beaucoup dans les communautés rôlistes, c'est-à-dire que la manière d'intégrer son personnage contre un ennemi, un némésis puissant, c'est d'intégrer au sein d'un groupement d'aventuriers ou de mercenaires pour pouvoir dire j'en étais, j'y étais, mais c'est pas moi qui ai tué Arthas, c'est pas moi qui m'anime au Frostmourne. Donc là, ce qui est aussi important, c'est qu'au-delà de la mort du boss, c'est aussi la suite, c'est-à-dire son équipement. Est-ce que c'est moi qui ai Frostmourne ? Est-ce que c'est moi qui ai les armes d'Illidan ? C'est aussi des questions qu'il faut prendre en compte et bien l'aspect unique des choses. Donc s'il y a 10 personnes qui manient Frostmourne, par exemple, ça va être quand même problématique sur le serveur. On perd en cohérence. Donc là-dessus, il faut aussi réfléchir et voir comment ça se passe sur le serveur. Et en fonction de la communauté, pour soit avoir une réplique, soit avoir une arme un poil moins puissante.
Ouais. Bah, par exemple, moi je pense que à partir du moment où on a participé activement au raid et qu'on a terminé l'instance, tout ça, on peut se dire que par exemple, le personnage n'était pas forcément en première ligne, mais dans l'unité de soigneurs qui était en arrière-ligne et qui s'est occupé des soldats, enfin. Qui a participé, mais peut-être d'une manière plus éloignée que forcément tuer les boss.
Oui, si on résume, de l'idée qui en ressort, on peut participer en tant que groupe, mais le dernier coup, entre guillemets, doit être donné à un des héros de l'univers du jeu, entre guillemets. Si je résume tout ça. De mon expérience, la plupart des joueurs qui se présente comme ayant tué Arthas ou comme ayant tué Ragnaros et étant donc le héros libérant Azeroth sont souvent des joueurs débutants. Donc est-ce que la prise en compte du PvE dans le RP n'est-il pas un risque pour les débutants ? Ou est-ce que c'est un point intéressant qui leur permet de faire des erreurs et d'apprendre justement ?
Les quêtes, on va dire, ça se sont pas citées, c'est plus simple pour un débutant à intégrer et qui lui permettra d'avoir un moule, qui lui permettra de se fondre dedans, peut-être pas très original, mais au moins qui aura une certaine cohérence. Tout ce qui est au niveau des boss, au niveau des choses plus uniques, j'ai envie de dire, la mort d'Arthas, ce genre de choses, ou obtenir Keldar pour les signes d'oreille, là, dès que ça devient un peu unique, c'est un peu compliqué parce que du coup, on se retrouve dans une situation où un débutant aura plus de mal à gérer toutes les subtilités que ça impose. Donc, moi, ce que je recommanderais pour un débutant, c'est de prendre en considération, par exemple, une zone de départ ou autre pour pouvoir façonner son personnage, ou un patch qui change un petit peu le scénario, le BG, pour pouvoir modifier et intégrer là-dedans plus que sur un raid ou un donjon ou ce genre de choses.
Ouais, parce que c'est pas rare de voir des rôlistes plutôt casual mélanger justement un peu trop la dimension PvE, c'est-à-dire que j'ai du stuff où c'est marqué maréchal, donc je suis maréchal forcément. Parfois il y a cette dimension un peu de confusion qui peut être gênante, donc faut savoir s'en détacher aussi.
Oui, savoir faire la part des choses entre ce qu'on a looté et ce qu'on a réellement gagné en RP. Donc quand je parlais des donjons, des victoires contre les boss de raid, etc. Question qui se pose souvent à des jeunes joueurs qui veulent rejoindre une guilde RP, c'est si je rejoins une guilde RP, est-ce que je me coupe du PvE à haut niveau ? Est-ce que le PvE à haut niveau est-il impossible quand on est dans une guilde RP ? Quand on RP tout simplement ?
C'était le cas sur Burning Crusade. Là, c'était clair. C'était des conditions quasi impossibles pour arriver à une guilde RP, de pouvoir être opérationnel, de pouvoir continuer à faire des raids. Certaines y sont arrivées sur certains serveurs en faisant des groupements de guildes. C'est dans des conditions très drastiques, avec des joueurs très motivés, qui ont une certaine expérience. les expériences furent peu nombreuses, les échecs, furent beaucoup plus nombreux. Moi, ce que j'ai constaté pour ma part, c'est que avec Volteca, il y a eu un début quand même d'accessibilité du jeu. Même si pour une guilde RP, ça restait quand même très difficile. Pour une guilde, j'ai envie de dire, de joueurs vraiment purement RP, ça restait très difficile. Des joueurs qui avaient un certain niveau de PVE et qui manipulaient les RP pouvaient y arriver. À partir de Cataclysme, tout a lâché. N'importe qui pouvait se lancer dans L'âme des dragons, il n'y avait aucune difficulté, que ce soit un joueur RP lambda ou un autre. La plupart des joueurs partaient quand même d'un niveau suffisant pour pouvoir se lancer là-dedans. Les rencontres étaient quand même simplifiées aussi avec l'arrivée des LFR, etc. Les gens s'entraînaient. Tout ça a contribué, j'ai envie de dire, à la démocratisation du PVE. Et cette démocratisation a permis aussi aux rôlistes de pouvoir exister, de pouvoir, même au sein d'une guilde RP, pouvoir se lancer dans les raids. Aujourd'hui, toutes les conditions sont réunies. Le jeu fait qu'il est accessible à tous.
Du moment qu'on a quelqu'un qui s'y connaît suffisamment dans les strats, qui peut raid lead ou autre, tout le monde suit, c'est pas souci.
Ça dépend parce que, bon, bien sûr, ça nous prenait du temps sur le RP potentiel, mais enfin ceux qui n'étaient pas habitués au PVE parfois qui venaient avec nous, c'était un peu plus difficile, quoi, du coup, de raider, quoi. Mais dans l'ensemble, je dirais que ça a aussi un effet positif de faire une sorte une cohésion dans la guilde, quoi, dans le groupe. Et justement, le noyau PVE était assez soudé en RP et dans la guilde.
Il faut que le joueur ait quand même un impact sur son environnement, qu'il profite de tous les aspects du jeu. À partir du moment où un rôliste ne pourra pas aller en raid, je pense que des joueurs qui ont cette motivation là, on s'en coupe. Moi, j'ai vécu sur Burning Crusade des situations très difficiles parce qu'on avait d'excellents rôlistes qui ne pouvaient pas continuer dans une guilde RP. C'était clair, ils ne pouvaient pas découvrir le jeu. On se retrouvait finalement des gens très intéressés par le lore, mais qui ne pouvaient même pas savoir ce qui se passait dans les raids, qui ne savaient même pas savoir connaître la suite du lore du jeu, parce que le jeu était fait pour que ce soit des grosses guildes qui aillent, des grosses machines de guerre, et les petites guildes là-dedans n'avaient pas leur place. Quelque part, moi, j'ai constaté que voilà, ça c'était une grosse difficulté, et même aujourd'hui, même si le lore est, on va dire au mieux, étriqué dans les raids, pour être gentil, globalement, on se sent quand même coupé de l'univers si on n'arrive pas à y avoir accès, et c'est très important pour la cohésion et pour, j'ai envie de dire, l'enrichissement de la guilde, de pouvoir mettre le pas là-dedans, de pouvoir se dire j'y étais, j'ai vu ce que c'était.
C'est vrai qu'il y a une question qui peut se poser, c'est que ce PVE, ça peut prendre du temps. Est-ce que ça peut avoir vraiment un impact néfaste sur une guilde? Est-ce que une guilde qui sera dite RP-PVE ne pourra pas sombrer dans le PVE, entre guillemets? C'est-à-dire que les gens étant focalisés plus sur le PVE, le RP en sera amenuisé, et donc ça, pour résumer, ça tuera la guilde, enfin l'esprit propre de la guilde.
Oui, ça, j'ai envie de dire, tout le monde a au moins un exemple, quand il a fréquenté pendant des années les serveurs RP, tout le monde a au moins un exemple d'une guilde RP qui a voulu faire du PVE, qui n'est pas arrivé à gérer ce phénomène, et que du coup, la guilde s'est cassée la gueule, parce que le phénomène le plus courant en général, c'est qu'il y a un noyau dur, ou un noyau rat petit, mais toujours est-il qu'il y a un certain noyau qui veut aller plus loin, qui estime que ça prend trop de temps, que ça traîne, que voilà, qu'on a des joueurs qu'on a des boulets, enfin bref, il y a tout ça. Le raid n'est pas assez opérationnel, n'est pas assez opti, il n'avance pas assez, ça il y en a toujours. Même dans une guilde PVE, il y a toujours déjà ce débat là alors encore plus fort, fort partie dans une guilde RP où le niveau PVE sera peut-être plus faible, parce que c'est pas des joueurs vétérans là dedans non plus, ça mélange tout type de public, j'ai envie de dire. Une guilde RP, il faut savoir se donner des limites, il faut savoir se poser des temps pour le RP, il faut savoir se poser des temps pour le PVE, il faut que les deux activités puissent être productives pour la guilde, que tout le monde y trouve son compte. Alors On connaît, j'expliquais une guilde qui implose parce que voilà, il y a des joueurs qui veulent aller ailleurs, qui veulent aller plus loin, que la guilde suivra jamais. Mais il y a aussi l'exemple de la guilde finalement qui fait plus que du PVE parce que voilà, il faut enchaîner les. Ça c'était très classique à l'époque de Burning Crusade, bon ça s'est un peu duré encore après, mais sur OTK aussi un petit peu, c'est-à-dire que il faut stuffer les gens, il faut débloquer les accès, etc. Donc il y a toujours quelque chose à faire en PVE, il faut former ses réputes. Est-ce qu'à un moment, bon, le jeu fait tout pour qu'on passe un temps maximum, qu'on soit addict quelque part, et qu'il fait tout pour que les joueurs soient occupés, qu'ils ne s'ennuient pas. Alors, ça c'est bien. Et d'autre côté, une guilde RP peut se retrouver un peu perdue, parce que finalement, un vrai joueur PVE qui va s'investir, bah, entre le FR, son héroïque, ses formes de points de vaillance, ses mi-points par semaine, bah, même aujourd'hui, bah, il est quand même vachement bien occupé. Ça peut avoir des grosses conséquences, ça peut avoir une grosse diminution de l'activité RP. Donc ce qu'il faut, c'est que. Il y a une cohésion dans la guilde, qu'il y a un certain nombre d'events RP qui rassemblent la guilde, et il y a des moments où on consacre un petit peu, je sais pas moi, à PXE ou à Roll ou à Stuffer ou autre, et qu'il y a des moments où on consacre voilà, à se retrouver, etc., de manière privilégiée. Donc il faut savoir un petit peu alterner entre les deux, il faut savoir s'aménager des temps, bon, c'est pas forcément évident, mais c'est aussi aux GM, aux officiers, de remettre dans le droit chemin quand un joueur s'égare trop, je mets.
Personnellement, je vais vous dire comment on fait. Nous, de notre côté, on a des gros joueurs PVE aussi. Mais nous, ce qu'on fait, c'est 2 semaines de raid et 1 semaine de pause. Bon, on faisait, parce que c'est vrai qu'actuellement, on fait une grosse pause PVE depuis Mist of Pandaria. Mais ça nous permettait de pouvoir aussi nous focaliser sur nos activités roleplay. Et qui plus est, la plus grande règle d'or, s'il y a un event qui, même si cet event se faisait comme ça, sur le moment, le PVE était mis à l'écart pour laisser place au roleplay. Ensuite, oui, il y a des limites à faire, et du moment que tout le monde est d'accord sur le système, il n'y a pas d'implosion, il n'y a pas de... Bon, pour moi, personnellement, je trouve que... Les deux activités dans la même guilde sont possibles et ça permet aussi d'avoir différentes activités pour que tout le monde ne s'ennuie pas, parce que quand même, faut dire ce qui est, WoW est fait pour faire quand même du PvE, au grand regret.
Oui, tout à fait. Mais est-ce qu'on peut faire un raid en RP? Est-ce qu'on peut, concrètement, est-ce qu'on peut raider en RP? À un certain degré, il y a une difficulté, mais est-ce que vous pensez que c'est réalisable ?
C'est utopique, à mon sens. Même si, personnellement, j'ai déjà essayé, c'est complètement utopique, parce que aujourd'hui, habituellement, quand on parle de PVE, on parle effectivement de logiciels audio comme TeamSpeak, Mumble ou encore Skype, qui, à mon sens, nuit à l'immersion en jeu.
Oui, c'est compliqué. Essayer déjà de faire un donjon en RP, c'est très sympa, mais ça prend du temps. Alors imaginez avec 10 personnes qui veulent faire des activités RP. Bon, moi ce que je recommande, c'est de faire des raids old school. Si on veut faire du RP en PVE, c'est de faire des vieux raids ensemble. La difficulté est relativement simple, et du coup, ça permet de s'amuser. On le fait, nous, de temps à autre, ça pose pas trop de difficultés. Ce qu'il faut se dire, c'est qu'un raid PVE de base... du patch actuel, à chaque fois la difficulté sera suffisante, je veux dire, pour qu'on ait autre chose à faire. Mais par contre, ce qui est possible de prévoir, c'est que bah, la guilde, je sais pas moi, la fin d'un tel boss ou la fin d'un tel truc, elle obtient un objectif, un artefact, ou ça remplisse un objectif de guilde. Ça peut être plus simple de matiner un petit peu la rencontre PVE qui a été faite en RP sur le forum. C'est aussi une chose envisageable. Après, voilà, faire vraiment du pur RP dans un raid. Moi, j'en ai fait à l'époque Vanilla. Je peux vous dire que c'était horrible parce que on passait un temps fou à attendre finalement les gens derrière qui étaient en train de RP. Donc déjà qu'un raid prend beaucoup de temps, si en plus les joueurs y mettent tous de leur sauce, ça peut devenir un supplice pour certains joueurs dans le raid, hein, soyons clairs. Et dans le PVE, il y a aussi les journalières de haut niveau. Et ça se prête bien, par contre, ça, ce contexte-là, des opérations RP. Ça, par contre, faut pas l'oublier. Et c'est quelque chose que nous, on pratique, par exemple, sur l'île du Tonnerre. Ça fonctionne très bien.
Pour les raids old school, il faut pas les prendre, à 100% dans le roleplay. Parce que si, par exemple, on refait... le plateau du Puits de Soleil, normalement, dans le lore, Kil'jaeden a déjà été refoulé depuis assez longtemps, donc à trouver une justification en roleplay qui permet de justifier le fait que les têtes ont repoussé, genre, par exemple des illusions arcaniques ou alors l'utilisation d'un artefact qui a fait remonter dans le temps pour un entraînement. Je prends l'exemple de pour remonter dans le temps des raids qui se passent dans les grottes du comme pour la bataille du Mont Ijal ou l'heure du crépuscule qui elle aussi a son entrée là-bas.
Moi, il est sûr, c'est qu'on ne peut pas dire que les boss qu'on retrouve actuellement dans les raids pré-MOP sont vivants. Par exemple, si on retourne à MC ou Molten Core, on peut pas dire que Ragnaros est effectivement là-bas, il nous attend avec son ancien skin d'attendre Vanir. On peut par contre dire que c'est un élémentaire de feu supérieur en évitant de dire que c'est Ragnaros.
C'est possible de faire des donjons peut-être semi-RP avec des add-ons, par exemple Speaking Spell. Je sais pas s'il est à jour, mais ça va permettre des phrases quand on lance des sorts ou qu'on fait certaines actions. Donc ça permet aussi d'apporter une dimension RP automatique, sans forcément besoin... en faisant du PvE.
Oui, tout à fait, mais même pas que dans les donjons. De point de vue général, ça peut être un ajout intéressant dans le jeu, tout simplement. Mais c'est vrai que si on résume un peu vos différentes idées, on ne peut pas vraiment faire de RP dans un donjon à haut niveau. Dans un raid, entre guillemets. Alors, on est parti sur l'exemple du raid parce que c'est là où ça regroupe le plus de personnes. C'est surtout là qu'est l'avantage. Donc, dans des raids old school qui seront donc plus faciles, où on pourra troquer un stuff PE contre un stuff RP, on pourra vraiment faire du RP dedans. Après, c'est certain que sur, par exemple, si on veut faire du RP sur le caveau Bouchad, il faut le prendre en tant qu'objectif et ensuite le prendre d'un point de vue objectif militaire avec peut-être des phases de RP courtes avec une exposition RP de la stratégie pour battre les monstres entre chaque boss. Après, c'est sûr que ça ne donnera pas un RP d'échange où chacun pourra réagir à sa manière et avec son temps de réaction, dirons-nous. D'ailleurs, ce qui est drôle, c'est que parfois certains sont plus réactifs en RP qu'en PvE, et inversement. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé de l'impact du PvE sur l'organisation d'une guilde, sur la, entre guillemets, la vie de tous les jours d'une guilde, mais d'un point de vue d'événements ponctuels, c'est-à-dire un raid, un donjon, des quêtes. Mais c'est vrai que fréquemment, dernièrement on sait fréquemment, il y a les mises à jour, les patchs. Il y a eu la 5.0 qui était MOP, 5.1, 5.2 et nous en sommes à la 5.3. Avec une évolution du lore, avec une évolution des factions hors d'alliance, une évolution de la guerre entre ces deux factions. Donc est-ce que ça a un impact réel sur les guildes, sur le RP, sur le monde RP, et surtout comment le prendre en compte, comment aller dans l'évolution, comment la préparer, comment la suivre, cette évolution.
Ce qui est intéressant qu'on peut noter, c'est que par exemple, sortie de Burning Crusade, beaucoup de joueurs ont fait des elfes de sang. On crée des guildes elfes de sang à l'époque, donc il y a un véritable phénomène finalement déclencheur du RP, c'est-à-dire que l'arrivée d'une nouvelle race peut engendrer carrément de nouvelles guildes, qui vont être remplies d'ailleurs sans trop de difficultés. On l'a vu aussi pour les gobelins à Cataclysme, ou les Worgen, on a pu aussi voir pour notamment les Chevaliers de la Mort, à l'arrivée de Walteka, c'était le même phénomène. Donc c'est vrai que l'arrivée de nouveaux patchs a un impact concret et direct. Ça peut en donner envie de jouer un nouveau personnage, ça peut en lancer une nouvelle guilde, de nouveaux projets, etc. Après, il y a toute la question de les choses qui existent, les personnages qui existent, les guildes qui existent, comment elles arrivent à s'adapter. Alors ça, c'est plus compliqué, parce que toutes les guildes ou les personnages vont pas suivre un niveau. Quand une mise à jour sort, il y a toujours tout le monde qui crie « Ouais, machin, il est déjà mort, le Bob Big Boss, il est déjà mort. » Bon, ok, calme, hein. En RP, personne n'a eu le temps de le jouer, à part ceux qui étaient les guides PVO au niveau. Donc il y a une véritable difficulté, c'est-à-dire qu'il peut y avoir une révélation à la fin du raid. Je pense notamment à Walteka, ou alors à PC pour le Puits du Soleil. Il peut y avoir une révélation à la fin du raid qui fait qu'en RP, personne l'a vu, mais finalement tout le monde le sait. En HRP au moins. Et du coup, certains joueurs plus faibles en termes d'expérience ou qui sont un peu trop pressés, impatients on va dire, vont déjà diffuser l'information RP et vont finalement cramer tout le déroulement de beaucoup de guildes ou de projets parce qu'ils sont trop impatients, parce que voilà. Donc il y a un enjeu parce que c'est très amusant pour les guildes RP d'être le premier par exemple à pouvoir participer à la bataille finale ou à rapporter une information capitale à la fin du patch qui se déroule à l'arrivée du nouveau raid, mais il y a aussi tout ce côté là qui est très compliqué à gérer pour les guildes et pour les personnages, de l'information, qui en est où, à quel niveau, est-ce que tout le monde est au même niveau de passage. Bon, c'est très compliqué. L'idée, c'est que voilà, il y a un décalage en termes de timing, on le voyait bien dans les chronologies ABC, ça existe toujours dans les autres add-ons, dans les autres patchs. Ça, c'est quelque chose qui a géré dans la communauté, c'est un gros sujet, moi j'ai envie de dire, pour arriver à ce que tout le monde soit au même niveau. Il peut y avoir aussi des gros blocages. Moi, je pense notamment aux Pandaren. Il y a des guildes qui ont dit, moi, je refuserais de guilder tout Pandaren. Ou il y a des guildes qui ont dit, moi, je refuserais de parler à tout Pandaren. Donc, il faut bien prendre en compte que, même dans le RP, les conséquences qui changent dans le jeu, en PvE ou autre, peuvent avoir un impact fort et significatif. Moi, je me rappelle aussi sur les DK qui étaient très méprisés à une époque. Et qu'il faut aussi prendre le temps de faire la pédagogie, convaincre que le changement c'est pas le mal. Hein. Ça c'est beaucoup de rôlistes sont très conservateurs. Il faut les bousculer leurs petites habitudes. Alors moi je suis le premier à dire que les pandas c'est n'importe nawak et qu'il faut pas de pandas dans ce jeu. Mais bon j'ai quand même dû faire avec les pandas qui y étaient parce que sinon je devais BL les propres de Maggie. Donc il faut savoir évoluer avec son temps. Voilà c'est un message que je voulais porter.
Pour résumer. Le RP dans le PvE, c'est possible. Il suffit juste de faire attention, il suffit juste de... Bah, comme dans le RP ou dans le PvP, de savoir faire deux poids, deux mesures, un juste équilibre entre les deux activités, les trois activités même, de manière à ce que chacun puisse trouver son plaisir dans le jeu, tout simplement. Donc, sachant que en RP, nous prenons toujours en compte le lore, et il est plus aisé, d'une certaine manière, sur le long terme, de s'appuyer sur des événements PvE que sur des événements PvP. Parce que les événements PvP sont assez fluctuants, et seuls les joueurs en sont maîtres, mais parfois ce ne sont pas les bons joueurs qui maîtrisent cela. On va passer à la rubrique du Père Varka. Donc, Varka, de quoi allez-nous vous parler cette semaine?
Ah, je vais garder la surprise pour la chronique, mais je vais parler d'une race qu'on connaît beaucoup et en même temps qu'on connaît très peu. Donc, je vous laisse découvrir ça tout de suite.
Magneto Barcia.
Les chroniques du Père Varka!
Bonjour et bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle chronique du Père Varka. Alors aujourd'hui, comme je le disais, nous allons voir une race que tout le monde connaît, mais que personne ne connaît vraiment. Aujourd'hui, nous allons parler des Murlocs, ces petites bestioles avec une crête de punk et une couleur à faire jalouser Matwingo, et leur cri proche des groupies de One Direction qui viennent de s'enfiler la moitié d'une coupe de champagne. Mais passons au point principal de cette chronique pour éviter de me mettre à dos. Ado, petit jeu de mots en rapport avec One Direction. La moitié de mes auditrices. Les Murlocs ne sont apparus qu'assez récemment dans Lordaeron, mais on pense qu'il s'agit pourtant d'une race très ancienne d'Azeroth. Ces créatures originaires des océans ont récemment commencé à s'implanter dans les terres, dans les lacs et dans les fleuves. A priori, les Murlocs ne sont pas des créatures très intelligentes. Ainsi, leurs cris gutturaux sont pratiquement impossibles à déchiffrer. Cependant, de récents rapports remis par des espions laissent penser que leur colonisation des rivages un peu partout dans le monde pourrait être le fruit d'un effort coordonné. On peut trouver certains clans Murloc en Kalimdor, mais également en Orfandre, où ils servent de cobayes pour leurs expériences morbides du fléau. Par ailleurs, beaucoup pensent que les Murlocs, ou tout du moins leurs ancêtres, pourraient être apparus sur Azeroth avant les trolls, mais vivaient dans les profondeurs abyssales, à l'instar des Nagas. Ces deux races ont peut-être un lien ou un dessin lié. Enfin, certains pensent que l'apparition des Nagas et des Murlocs sur Azeroth pourrait bien être le premier indice livré au monde de quelque chose de bien plus terrifiant. Mais le plus surprenant rapport des services d'espionnage révèle que les Nagas ne seraient peut-être pas les seules abominations se cachant dans le fin fond des océans. Selon de nombreuses sources, dont des Murlocs, les hommes-poissons seraient les adorateurs ou les subalternes de nombreuses monstruosités abyssales. Ces abominations dormiraient ou attendraient, tapis dans les eaux boueuses, la récente émergence des Murlocs suggérant leur réveil prochain. Donc, ce qu'on retient de cette chronique, c'est que les Murlocs ne sont peut-être pas si cons que ça, et qu'ils pourraient servir un ordre sombre, voire terrifiant, d'être de flotte qui prêche une nana, enfin une naga, avec un trident, et que One Direction, c'est pas très bien. Je tiens à vous remercier d'être de plus en plus nombreux à écouter le podculte, et j'espère que grâce aux chroniques, vous tuerez des Murlocs avec un peu plus de pitié dans votre regard, avant qu'ils n'essayent de vous bouffer la jugulaire.
Passons à la rubrique de Kalyan. Kalyan, de quoi allez-vous nous parler cette fois ?
Alors, ce mois-ci, je commence une série de rubriques trucs astuces qui porteront donc sur les classes du jeu. Donc cette semaine, vu que Jack était notre invité, je l'ai mis à contribution pour nous parler du Chevalier de la Mort. Ce mois-ci, dans la rubrique trucs et astuces, je vais vous parler des trucs et astuces pour bien jouer Chevalier de la Mort en roleplay. Et donc j'accueille Jack, qui joue Chevalier de la Mort. Bonjour Jack.
Salut.
Donc tout d'abord, il faut savoir qu'il y a deux types de Chevalier de la Mort, les non-vivants et les non-morts. Tu peux nous en dire plus ?
Donc je vais commencer par les Chevaliers de la Mort... Non morts. Donc les non-morts, ce sont des anciens guerriers ou paladins, voire même des héros qui ont été ressuscités par Arthas, surtout lors des événements d'Acherus. Ensuite, il y a les non-vivants qui ce sont des hommes et femmes qui ont vendu leur âme au roi Lich pour atteindre un pouvoir phénoménal ou tout simplement l'immortalité.
D'accord. Donc, qu'en est-il de la position des Chevaliers de la Mort par rapport à leur faction ?
Eh bien, dans l'Alliance, ils sont... Je vais commencer par l'Alliance, oui. Mais dans l'Alliance, ils sont craints. Parce que quand on évoque le Chevalier de la Mort, on évoque aussi Arthas. C'est un profond traumatisme qui est même après les événements du roi Lich, sont toujours d'actualité. Il y a tout de même des grands héros comme Tassarian qui combattent dans les forces de l'Alliance pour avoir sans doute une certaine rédemption.
D'accord. Alors que la position dans la Horde, ça va plutôt être un peu plus positif, puisque la Horde respecte tout ce qui est esprit guerrier. Et donc, vu que les Chevaliers de la Mort sont considérés comme une grande force offensive, ils vont être un peu plus respectés, mais... Tout de même, il va y avoir un certain rejet. Donc, qu'en est-il du cas des Worgen Chevaliers de la Mort ?
Eh bien, les Worgen Chevaliers de la Mort, pour expliquer les fondements de leur BG, même si beaucoup crieront scandale, parce que beaucoup le disent, que c'est la pire la combinaison de race et classe, eh bien, il y a un background derrière tout ça. Le Chevalier de la Mort, Worgen, c'est un habitant de Bois du Bûcher embarqué par les enrôlés de force par Sandu les Salmiens lors de la résurrection de Tarugal.
D'accord, donc c'est quand même une classe, enfin une race, à prendre avec des pincettes si vous jouez Chevalier de la Mort. Donc, quelques conseils pour les débutants ?
Bien, pour les débutants, il faut savoir que les Chevaliers de la Mort sont extrêmement sensibles à la lumière. Un soin fait par de la lumière par un paladin ou un prêtre inflige plus souvent des dégâts, autant aux non-vivants qu'aux non-morts, au chevet de Namor.
D'accord. Et j'avais lu dans une question-réponse également que le chevet de Namor avait une dépendance à la violence, c'est-à-dire qu'il va avoir besoin de d'extérioriser une certaine forme de violence. Donc, soit au quotidien, soit dans des périodes plus espacées, mais c'est quelque chose qu'il y a dans le chevet de la mort. Sinon, par rapport au traumatisme qu'a vécu le chevet de la mort, Jack ?
Eh bien, les chevets de la mort, surtout les non-morts, ont vécu la mort. Donc forcément, quand ils ont été ressuscités, il y a toujours un choc lors de la résurrection. Et qui plus est, ils ont été utilisés comme des outils par le fléau. Ils ont dû brûler leur maison, détruire leurs amis, leurs femmes, la famille. Ce sont des, ils ont été utilisés comme des objets. Donc il y a un profond traumatisme aussi dans les chevaliers de la mort. Et habituellement, un chevalier de la mort est souvent seul et solitaire.
D'accord. Donc, quelques conseils pour les joueurs expérimentés. Ce serait de jouer la carte du chevalier de la mort en quête de rédemption. Jack, tu as un exemple?
Eh bien, oui, j'ai un exemple, même j'ai deux exemples de chevalier de la mort dans l'histoire de World of Warcraft qui cherche la rédemption. L'un des premiers chevalier de la mort qui sans doute qui est connu parce que c'est le vendeur de pièces T10, chevalier de la mort. Ce PNJ, c'est un chevalier de la mort qui s'est crevé les yeux pour ne plus en signe de punition sur les faits de ses actes horribles alors qu'il était sous le contrôle du fléau. Il y a aussi un autre chevalier de la mort qui est aussi connu, même si ça reste un ennemi, c'est le Sir Zeliek. Sir Zeliek, comme vous savez, c'est un des quatre chevaliers de Naxxramas. Malgré le fait que son corps a été corrompu par Kel'Thuzad, son âme et sa volonté est tellement forte qu'il a réussi à garder son pouvoir de la lumière et peut avoir une certaine parole. D'ailleurs, il prévient les joueurs de s'enfuir avant qu'il les tue. C'est admirable.
D'accord. Donc merci Jack, c'est tout pour la rubrique trucs astuces. Et si vous voulez qu'on parle d'une classe en particulier, n'hésitez pas à le signaler dans les commentaires.
Maintenant, nous allons passer à l'intervention de Jack, qui va nous parler d'un projet qui lui tient à cœur. Jack, c'est à vous.
Je souhaiterais vous parler d'un projet que je vais sans doute initier, même que j'ai déjà commencé à initier, au vu de la 5.3 et de la 5.4. C'est que j'aimerais organiser un énorme event RP sur le long terme qui permettrait de réunir tout le monde. À l'époque, nous avions déjà organisé ce genre d'event et ça avait fonctionné. Donc le but serait d'organiser une campagne sur Orgrimmar. Donc profiter de la 5.3 pour faire la marche, qui pourrait effectivement durer plusieurs semaines, voire mois. Puis à la 5.4, préparer les attaques sur Orgrimmar et participer tous ensemble, Horde et Alliance, pour créer et pour faire vivre l'histoire de notre serveur.
Du mouvement, de la guerre, ouais. Mais surtout, ça, en déterminant une zone, entre guillemets, qui va être une zone de conflit, en fait, si j'ai bien compris. Ça va être une zone de rassemblement des guildes, en fait, soit Horde ou Alliance, et qui permettra donc des échanges entre les guildes. Et les projets vont pouvoir s'imbriquer les uns dans les autres. Et... Ouais, non, je pense que c'est une très bonne idée. Franchement, je pense que...
J'espère que énormément de guild roleplay n'hésiteront pas à participer dès lors où je ferai sans doute non seulement un message sur le forum RP du culte, mais aussi le forum officiel du culte.
Et n'hésitez pas à travailler chacun de votre côté pour apporter votre pierre à l'édifice. Je suppose que tout courrier avec des propositions est accepté.
Oui, tout courrier avec proposition est accepté. Nous allons sans doute pour la campagne, comme j'ai dit au début, ça va être une marche. Donc nous allons visiter plusieurs régions. Autant ça peut être une marche qui commence du nord de Kalimdor que du sud de Kalimdor. Donc on va passer forcément dans des régions où on peut exploiter le roleplay, l'atmosphère roleplay de cette région.
Il faut aller se recueillir à Terra Mort.
Par exemple.
C'est certain. On reprend Terra Mort, justement.
Non, on va pas reprendre des ruines.
Ça intéresse personne.
Bah, c'est ce qu'on fait, les réprouvés.
Ouais, mais les réprouvés, eux, sont particuliers.
Ils aiment les ruines.
Ils sont morts, c'est vrai.
Ils aiment les ruines, ils aiment les morts. Ça tombe bien, on va les expulser de Lord Iron plutôt. Jour.
Ils sont en ruine, d'ailleurs.
Oui, oui. Leur corps est une ruine.
Donc, tant qu'on vous tient, Jack, parlez-nous un peu des brumes, vos envies, vos objectifs, votre vie.
Votre vie, c'est très simple. Brumes vient de sortir, du moins, d'une longue inactivité suite au début un petit peu catastrophique de Mist of Pandaria. Enfin, dire que nos amis pandas n'ont pas forcément plu à tout le monde. Et de Guild Wars 2. Mais Brume a déjà un peu été présenté par Kalyan. Hein. Nous sommes une guilde, une organisation secrète au service d'un maître appelé l'Oméga. Et nous utilisons comme couverture le nom de l'armée de mercenaires qui est au service de Diak, qui est a pour nom Epsilon. Donc actuellement nous sommes sur plusieurs projets roleplay. Nous acceptons tout contrat, bien entendu, autant de la Horde que de l'Alliance, même si avec la Horde on aura un peu plus de restrictions. Et notre but est avant tout de nous amuser plus qu'autre chose. Bien entendu, comme je disais tout à l'heure, nous ne faisons plus actuellement de PVE, mais je pense que dans un futur prochain, sans doute à 5.4, nous allons reprendre cette magnifique activité pour pouvoir admirer la chute du chef de garde de la Horde.
Et nous serons là pour... Attendez. Non. Pas vous empêcher.
Non, on vous empêchera pas de faire ça.
Pas.
Nous serons sur la terrasse à boire le thé. Bien. Eh bien, merci pour ces informations. Toujours un plaisir d'en savoir plus. Je suppose qu'on peut vous contacter via message ou via forum.
C'est exact. Donc, niveau message, vous pouvez me contacter personnellement, Jack sans accent, parce qu'à l'époque j'avais un accent, mais aujourd'hui c'est Jack tout court, j'ai récupéré mon pseudo d'origine. Sinon, vous pouvez contacter Kalyan, vous pouvez contacter Valadriel, vous pouvez contacter même Malkrin pour avoir plus d'informations à ce niveau-là. Si vous souhaitez nous contacter via notre forum officiel, nous avons un poste de recrutement sur la section forum culte d'arrive noir officiel.
Bien. Et donc, maintenant, nous allons passer à la présentation de la maison Keltzelam avec Lodge qui va nous présenter en détail cette maison noble de Lune d'Argent. Bien. Lodge, c'est à vous.
C'est en tant que Valarine Chantesort, lieutenant de la maison Keltzelam, que je vous parlerai de la maison Keltzelam. Fondée par le patriarche Yessir Keltzelam, et en ce moment, pour raison de son absence, dirigée par la capitaine Requien Finalbien, la maison Keltzelam est située à Lune d'Argent, à la place des Pérégrins, au nord-est de la cité. Nous avons comme objectif de rassembler le peuple Sindoreille, de rendre au royaume de Keltalas sa grandeur d'antan et ses anciennes valeurs qui faisait notre force, et imposer notre puissance et notre suprématie à tout Azeroth, et même en Outre-Terre, et même au-delà, si nous sommes amenés à aller au-delà. Nous comptons être présents sur les fronts à la fois politiques, vis-à-vis du Concile de Lune d'Argent, par exemple, que du point de vue militaire, vis-à-vis de la guerre contre l'Alliance, ou d'autres événements pour reprendre en main tout ce qui a été délaissé jusqu'à maintenant. Nous récupérons aussi de nombreux artefacts oubliés, et nous restaurerons la puissance Sindoreil, quitte à reprendre les travaux de notre cher et regretté prince Keltas. Avant que celui-ci, évidemment, ne nous trahisse pour Kil'jaeden, mais cela est une autre histoire. L'Alliance, nous ayant accusé, nous, Sindoreil, de traîtres à deux reprises, s'étant ainsi eux-mêmes porté le voile de la traîtrise et de la trahison, sont une cible privilégiée. Attention, je ne parle pas de les camper. Nous sommes prêts à tout pour leur faire payer au centuple chaque millilitre de sang versé. Vis-à-vis de l'effort de guerre de la Horde et de nos relations avec celle-ci, nous préférons rester à distance pendant que les autres races s'entre-déchirent entre elles. Nous choisirons évidemment le bon moment pour intervenir et pour montrer que nous sommes présents. Beaucoup pourront dire que la maison Kel'Selam est une maison refermée sur elle-même, qui ne veut pas évoluer et qui refuse le contact avec le moindre représentant non Sindoreil. Cela est faux. Cela est faux parce que nous autorisons parfaitement les autres races à venir nous rejoindre. Après tout, nous avons toujours besoin de serviles serviteurs ou de personnel pour les tâches pas forcément glorieuses, mais à coup point indispensables.
Travail terminé.
Non, tu as encore du travail. Regarde là-bas, il reste encore des traces. Où en étais-je? Ah oui. Vous l'aurez donc compris, la maison Kel'Selam a pour objectif de rendre à ce noble peuple qu'est le nôtre tout l'honneur qui lui est dû. Quand notre puissance sera avérée, nous ne quitterons pas la Horde, nous la servirons. Et le rouge de la Horde deviendra le rouge de notre peuple. Rouge et or, notre blason. Mais cela restera impossible sans votre aide. À vous, fiers fils et filles de Keltalas, fiers enfants du sang, rejoignez-nous et battez-vous au nom de la maison Kel'Selam.
Bien, nous allons parler un peu du concile de Lune d'Argent. Alors, nous allons aborder l'idée, l'histoire il y a quelques épisodes. Je crois que c'était le premier ou le deuxième épisode, quand on avait parlé des superstructures. Et donc, ce concile tente de se reformer. Alors, pour le moment, il n'y a que trois guildes qui participent. Les Kel'Selam, la maison Kel'Selam, la maison Selwë Belloré et la famille Cyn Mellorn. Alors, les Kel'Selam et les Cyn Mellorn sont des guildes qui, pour le moment, sont à faible population. Donc, nous encourageons les gens, les hordeux, hein, pas les allianceux, parce que à les rejoindre pour les faire grossir leur rang. Et donc pour pouvoir faire en sorte que ce concile puisse être actif et puisse se relever, que l'absence du régent permet aux familles, pas régnantes, mais aux familles importantes thalassiennes, de chapeauter un peu la vie de tous les jours à Lune d'Argent, comme le fait les maisons nobles de Hurlevent. L'objectif du concile de Lune d'Argent est de, non pas de diriger la ville et la communauté thalassienne, mais de participer à sa direction. C'est-à-dire que pour le moment, le projet est en cours de création, donc il faut d'abord qu'il y ait un minimum de 4 maisons et une cinquième maison, de préférence. Généralement, la cinquième maison n'est pas forcément une maison, mais plutôt une entité marchande elfique. C'est mieux. Nous ne sommes pas racistes, hein. Nous aimons aussi les autres races, mais les orques ne sont pas gouvernés par des elfes. Donc, les elfes ne sont pas gouvernés par des orques. Bref, passons cette petite aparté. Donc, Sienna, qui est la personne qui a le plus d'expérience sur le concile, de par ses nombreuses participations à cette organisation, pourra sûrement nous en dire plus.
Alors, bon, vous n'êtes pas sans savoir que le Conseil de l'Émergence est une riche histoire et c'est un projet qui a été lancé très tôt sur le serveur du culte de l'Arc Noir. L'idée était vraiment de permettre aux guildes RP de se rassembler pour se donner un certain nombre de règles communes, notamment sur le plan de superstructure, et par exemple sur le lore, d'avancer en commun, d'enrichir en RP l'activité du serveur, notamment au niveau des elfes. Alors, ce qui est intéressant, c'est que aujourd'hui, on est un peu moins strict qu'à l'époque, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que on recherche des guildes qui se veulent avant tout signes d'oreille, qui représentent des intérêts importants pour les signes d'oreille sur une argente. Et ce qui est un peu important, c'est que c'est une manière de se rassembler, de lancer un projet en commun et puis d'avancer. Sur une thématique elfique avec j'ai envie de dire leur logique propre et leur problématique propre qui concerne la restauration du pouvoir de lune argent qui a été fortement affaibli par la destruction de la cité et du royaume suite à l'arrivée des morts vivants. Donc c'est toute cette question là de redonner une dynamique et puis contre toute attente, Pandari nous a donné des éléments pour restaurer un petit peu ce pouvoir elfique, alors que personne ne l'attendait. Finalement, Blizzard s'est intéressé aux signes d'oreille. Oh mon dieu, c'était plus arrivé depuis la 2.4. Donc, c'est vrai que ça nous a donné un peu du grain à moudre et c'est une dynamique assez porteuse et puis qui peut donner aussi bien se traduire sous des décrets, des lois, une milice de lune argent, comme aussi sur des projets plus légers d'annexion en Pandarie ou autre. Donc il faut pour ça, nous ce qu'on recherche c'est au moins une guilde ou deux qui auraient envie de prendre part à ce RP, que ce soit sous la forme de corsaire de lune argent, c'est aussi possible, on en a eu à une époque, ça peut être aussi envisageable, c'est-à-dire de pirates finalement qui ont une lettre de mission donnée par le pouvoir de la cité, ou alors ça peut être une maison noble, etc. Donc si vous avez des envies, si vous avez envie de vous investir dans l'RP signe d'oreille, n'hésitez pas, on vous accueillera les bras ouverts et vous aurez tout à fait votre mot à dire et vous pourrez jouer la contribution que vous souhaiterez en fonction de l'investissement que vous aurez envie.
Oui, ce que c'est vrai qu'il faut rappeler que, comme Sienna vient de le dire, que Mist of Pandaria apporte une palette de possibilités énormes. Parce que on peut agir à tous les niveaux, qu'on soit à un niveau 1 ou un niveau 90. Parce que dans les bas niveaux, on se restreindra à tout ce qui est la zone vraiment de lune d'argent et des terres fantômes, des bois, etc. Et il faut pas oublier, avec Cataclysme, que les elfes de sang ont également été mis en avant avec le reliquaire. Ce qui permet donc également des trames sur cette zone-là et une exploitation de ce RP-là. Et donc après avec Mop et donc l'assaut Saccage Soleil, une part encore plus importante à haut niveau pour les elfes. Donc où on voit tous ces elfes qui sont mobilisés pour l'attaque de l'île du tonnerre. Donc ça fait plein de petits points qui, l'un dans l'autre, qui sont intéressants et qui vont animer un concile. Donc, passons au point histoire actuelle et rumeurs. Nous avons parlé des rumeurs qui courent dans les tavernes les plus enfumées, les derniers événements, les choses qui vous intéressent en clair au quotidien, les dernières rumeurs, qui couche avec qui a volé qui, et surtout, qui a tué qui. Commençons avec une information qui, je pense, sera des plus intéressantes. Le chercheur Eleven Fandam a une fois de plus gagné la course de Cabestan, mettant en doute l'intégrité des organisateurs de la course. Car sa compagne a fini deuxième, juste derrière lui, et il y a eu quelques doutes quant à la régularité de cette course.
Donc il paraîtrait que la guilde Arcanum Sanctus s'intéresserait aux terres foudroyées. Donc peut-être qu'ils s'éloigneraient de Gineas où ils sont actuellement. ce qui pourrait sûrement faire plaisir aux réprouvés de la région, hein, parce que rappelons qu'Arcanum est vraiment anti-horde, donc voilà, petite rumeur.
Moi, j'ai deux rumeurs. La première des rumeurs semble que... Il semblerait que l'une des héritières de la maison Riverwind soit harcelée. Par qui, on ne sait pas. On aurait quelques suppositions. Seconde rumeur, il semblerait que la seconde fille des... seconde sœur des Riverwind serait enceinte. Dame Flora serait enceinte d'après les rumeurs.
Diantre, mais qui est le père? Je pense qu'une enquête va être lancée. Une rumeur intéressante d'argent. On a entendu des cris provenant du manoir Celebelloré et des forces armées s'implanter aux portes et apparemment un nouveau pouvoir est en place ou en cours de négociation.
Non. On a vu une figure sombre s'éclipser du manoir.
Alors, cette semaine, c'est la saison de la pêche à Tolbarad, donc ne sortez pas sans votre canne à pêche et votre chapeau.
Donc on aurait aperçu un groupement mélangeant des membres de la Horde et de l'Alliance en Outre-Terre cette semaine, qui apparemment escorterait un chargement.
Très intéressant. Pour conclure, nous avons vu beaucoup de choses dans cet épisode. Nous avons vu le RP dans le PvE, où les avis sont pas tant d'argent que ça concernant son avis. Donc c'est de manière le PvE est une part du jeu, c'est même la base du jeu. Concernant les rubriques, nous avons appris des choses intéressantes d'un point de vue de l'histoire ou d'un point de vue de comment réagir face à son histoire. Et donc pour pouvoir faire une bonne histoire, tout simplement, pour son personnage. On a donc aussi des projets en formation qui sont très intéressants. Bon, le concile étant une chose annexe et propre aux elfes, c'est un projet intéressant mais assez cloisonné. Mais le projet que propose Jack, et qui va être mis en place, est très important et aura un impact sur l'avenir du RP dans le jeu. Et sera, je pense, un très bon instant de vie et d'amusement, en espérant que les gens restent dans l'amusement. Bien, en tout cas, je tiens à remercier tous nos participants qui ont été plus actifs et qui, franchement, vous auront permis, vous, auditeurs, d'entendre un petit peu moins Sienna. Bon, je sais qu'il y a eu quelques plaintes là-dessus. Mais ne vous inquiétez pas, on essaye de le baïonner.
Non !
Donc je vais vous dire au revoir à tous.
À la prochaine.
Ciao.
À plus.
Bonne soirée, au revoir.
Au revoir.
Allez, au revoir et salut les cultiens.